Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
Et on est ensemble jusqu'à 20h avec le journal dans quelques secondes. 19h15, le club des idées comme chaque soir. Le coup de griffe ce soir de l'écrivain Philippe Besson. La France n'est pas un régime autoritaire, nous dira-t-il. 19h20, le grand débat. Cadre au travail. Comment retrouver le chemin du bonheur au bureau? Ils ont le blues, les cadres. Horaires à rallonge, trop de télétravail et pourtant le bonheur au travail. Oui, c'est possible. Nous verrons comment avec nos invités. Et puis 19h50, le jour où ce soir un album mythique avec les archives d'Europe Soir. Thriller de Michael Jackson, bien sûr, c'était il y a déjà 37 ans. Et oui, le journal d'abord, avec l'info, Isabelle Millet. 19h, vous êtes à l'écoute d'Europe 1.
Les personnes qui utilisent de façon disproportionnée la force que le peuple met à disposition de ceux qui ont la violence légitime doivent être sanctionnées et n'ont rien à faire dans la police nationale ou dans la gendarmerie nationale.
Gérald Darmanin, en ce moment, face aux députés entendus sur les violences policières, il n'y a pas de divorce entre police et population, assure le ministre de l'Intérieur.
Cet après-midi, les chefs de groupe de la majorité parlementaire ont annoncé la réécriture de l'article 24 de la loi sécurité globale.
Après les nouveaux incidents en marge des manifestations ce week-end, les commerçants bordelais demandent à ce que le parcours de ces défilés évite désormais les centres-villes et leurs boutiques déjà tellement pénalisées.
La Haute Autorité de Santé dévoile ses préconisations pour la vaccination en France, priorité aux personnes âgées dans les EHPAD.
8 morts en 2015, l'incendiaire présumé de la rue Mira à Paris devant les assises face aux anciens locataires, lui qui s'était fait passer pour une victime de ce drame.
Au sommaire également ce soir, l'assassinat d'un éminent physicien nucléaire iranien. L'Iran accuse le Mossad en toile de fond. Le changement de président aux États-Unis, nous dira Didier François.
Et puis quand Noël Le Graët, le président de la Fédération Française de Foot, dit que c'est presque cuit, c'est que ça sent pas bon. Il ne pourrait ne pas y avoir de Coupe de France cette année.
Un coup d'œil au temps avec Anissa. Pour ce premier jour de décembre, l'ambiance est hivernale.
Et je vous l'apprends peut-être, Julien, mais demain c'est aussi le premier jour de l'hiver météorologique jusqu'au 28 février. Eh bien, vous allez le constater, le temps est en raccord avec le calendrier. D'ailleurs, ce soir, nous avons 4 départements du Nord-Est placés en vigilance orange, neige, verglas. Je vous dis tout à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
L'article 24 de la loi sécurité globale qui avait provoqué un tollé sera donc réécrit. Emmanuel Macron a pris les choses en main en convoquant une réunion à l'Élysée ce lundi.
Réunion à laquelle participaient les présidents des 3 groupes parlementaires de la majorité. Ces derniers ont tenu une conférence de presse dans la foulée.
Oui, et c'est là qu'ils ont expliqué qu'ils renonçaient à cet article polémique, en tout cas dans sa forme actuelle.
Et l'on notera que ce rétro-pédalage intervient quelques heures seulement avant l'audition de Gérald Darmanin. Devant la commission des lois de l'Assemblée, le ministre de l'Intérieur, qui a pleinement soutenu cet article, s'explique depuis un petit peu moins d'une heure maintenant sur les violences policières de ces derniers jours. Claudia Bertram, vous êtes en direct.
Oui, Gérald Darmanin est d'abord revenu sur l'agression de Michel Zecler. Des actes inqualifiables ont été commis, dit-il, devant les députés, en appelant toutefois à ne pas faire de généralité sur les forces de l'ordre.
Les personnes qui utilisent de façon disproportionnée la force que le peuple met à disposition de ceux qui ont la violence légitime doivent être sanctionnées et n'ont rien à faire dans la police nationale ou dans la gendarmerie nationale. Mais des individualités ne sont pas un tout. Et je ne supporte pas et je ne supporterai pas qu'on atteinte à l'institution, celle de la police nationale et de la gendarmerie, qui font un travail admirable.
Et le ministre de l'Intérieur qui l'affirme, il n'y a pas de divorce entre la police et la population. Gérald Darmanin reconnaît des problèmes structurels dans la police, notamment en ce qui concerne la formation. La raccourcir n'était pas une bonne mesure, admet le ministre, qui a d'ailleurs proposé aujourd'hui au chef de l'État que cette formation initiale soit plus importante. Sur une réforme de l'IGPN, la police des polices, Gérald Darmanin se dit prêt à tout étudier. L'audition se poursuit. Gérald Darmanin devrait être interrogé également sur l'avenir du préfet de police de Paris, Didier Lallement, ou encore l'article 24 de la proposition de loi sécurité globale qui va donc être réécrit, comme l'ont annoncé les présidents de groupe de la majorité tout à l'heure.
Merci Claudia Bertram, en direct donc de l'Assemblée nationale pour Europe 1.
Oui, notez que 2 des policiers impliqués dans le passage à tabac du producteur de musique Michel Zecler sont en détention provisoire. Les 2 autres ont été placés sous contrôle judiciaire. Tous les 4 ont été mis en examen pour violence volontaire.
Notez aussi que le parquet de Paris a ouvert une enquête sur les violences à l'encontre d'un photographe syrien qui a été blessé samedi dans la capitale. Des scènes de violence, il y en a eu donc encore ce week-end en marge de manifestations un peu partout en France et en particulier à Bordeaux.
Et elles ont suscité la colère des commerçants après des dégradations, des vitrines cassées, des magasins pillés en ce jour de réouverture tant attendu après ce deuxième confinement.
Trop, c'est trop, il faut interdire les manifestations dans les zones commerçantes, demande l'association des commerçants et artisans des métropoles de France que préside Christian Baulme.
Ce qu'on veut, c'est que, a priori, les manifestations soient interdites dans ces zones-là et que les gens qui veulent manifester avec des parcours qui passent dans ces zones soient obligés, non pas de le déclarer, mais de négocier le parcours avec la préfecture et les représentants des commerces et les représentants des municipalités. C'est une question juridique. C'est-à-dire que les organisateurs qui organisent une manifestation autorisée, puisque toutes les manifestations sont autorisées, mais toutes les zones ne sont pas autorisées et qui les organisent dans ces zones-là, sont pénalement responsables. C'est ça qu'on veut. Si on recommence un week-end de plus, c'est fini. Le commerce des métropoles est mort. Les organisateurs doivent avoir un service de maintien de l'ordre. C'est une obligation. Ils sont pénalement responsables sur eux-mêmes et il faut que la loi s'adapte pour que cette contrainte soit plus forte. Ça suffit, c'est ras-le-bol, il va y avoir de la réplique.
Le président des commerçants bordelais au micro européen de Stéphane Place. Les premiers vaccins contre le Covid pourraient être disponibles en France d'ici la fin du mois de décembre. Mais bien sûr, toute la population française ne se fera pas vacciner tout de suite et pas tout le monde en même temps.
La Haute Autorité de Santé a publié ses recommandations ce matin et elle préconise de cibler en priorité les personnes âgées dans les EHPAD.
Alors Eve Roger, comment ça peut se passer une vaccination massive au sein de ces établissements? Combien de personnes concernées et comment organiser tout ça?
Eh bien, ça concerne 750 000 personnes âgées et environ 90 000 salariés vulnérables des EHPAD. Vulnérables, soit parce qu'ils ont plus de 65 ans, soit parce qu'ils peuvent faire une forme grave de la maladie. Alors, les résidents des EHPAD sont la priorité des priorités, car ils sont particulièrement âgés. Ils ont déjà payé un lourd tribut à la maladie, près d'un tiers des 52 000 morts du Covid en France. Alors, comment organiser cette vaccination? Déjà le lieu, difficile de demander à des résidents fragiles de sortir de leur maison de retraite pour aller se faire vacciner. Et pour Jacques Battistoni, président du syndicat de médecins généralistes MG France, le plus sûr, c'est d'aller à leur rencontre.
On ne compte plus le nombre d'EHPAD où il y a eu une majorité des résidents qui ont été touchés par le Covid. Donc c'est très important de les vacciner. Ça va être éventuellement les médecins généralistes, mais aussi les personnels infirmiers qui travaillent déjà dans ces EHPAD.
Autre question, quel vaccin pour ces résidents en EHPAD? On sait que ce sera le premier à disposition au mois de janvier. Sans doute l'américano-allemand Pfizer-BioNTech. On sait aussi qu'il doit être stocké entre moins 70 et moins 80 degrés, mais qu'il peut demeurer quelques jours dans un frigo classique. Reste donc maintenant à organiser la logistique.
Eve Roger, chef de service Société d'Europe 1. Et si la situation s'améliore lentement chez nous, ce soir l'OMS met en garde sur la situation au Brésil, qui est très très inquiétante. Également au Mexique, le pays est en mauvaise posture, dit le patron de l'Organisation mondiale de la santé. Cette fois, c'est le vrai coup d'envoi du procès de Nicolas Sarkozy dans l'affaire des écoutes.
Image inédite sous la Ve République d'un ancien chef de l'État à la barre pour corruption et trafic d'influence.
Nicolas Sarkozy qui, dès le départ, a pris la parole pour dénoncer les infamies pour lesquelles on le poursuit, a-t-il dit, depuis 6 ans. Son avocate, elle, demande carrément l'annulation de la totalité de la procédure.
Il y a 5 ans, un immeuble s'embrasait dans le 18e arrondissement de Paris, faisant 8 morts rue Mira. Incendie allumé par l'un des locataires.
Un homme qui, pendant un an, s'est fait passer pour une victime parmi les autres. Le procès de ce drame s'est ouvert aujourd'hui. Et depuis ce matin, Justin Morin, les locataires sont donc confrontés à leur ancien voisin, celui par qui l'horreur est arrivée.
Oui, il a tout de l'adolescent mal dans sa peau. Les cheveux longs, mal coiffés, la posture chétive, souvent recroquevillée, et le t-shirt sur lequel on voit un petit poney rose de dessin animé. S'il voulait montrer qu'il est immature, il n'aurait pas fait autrement. Face à lui, dans la salle, il y a une partie de la famille Tendian, décimée par l'incendie. 4 y ont péri, dont 2 enfants. Alassane Tendian, lui, a survécu. L'accusé, c'était son voisin, et il ne croit absolument pas à sa posture.
Ça me choque et ça m'énerve. C'est pour minimiser les faits. Donc, ils cassent toujours la vérité. Nous, on a perdu 4 membres de la famille. Ça me fait très mal au corps.
D'emblée, d'une voix timide, l'accusé a pourtant reconnu les faits. Mais il se retranche derrière un double imaginaire et violent nommé Superbia qui l'aurait poussé à commettre les faits. Son avocat, Maître Laurent Thieffry.
Coupable, ça c'était une évidence, il vient de le rappeler. Toutefois, il souhaite insister sur le fait qu'il n'avait aucune conscience du danger qu'il faisait courir aux autres et expliquer également justement les circonstances qui l'ont amené à commettre ce geste.
Alors, est-ce une vraie pathologie ou une stratégie de défense? Pendant la procédure, les experts psychiatriques, eux, ont plutôt décelé une posture opportuniste et déculpabilisante. Ce sera tout l'enjeu de ce procès qui durera une semaine et demie.
Justin Morin, la Cour d'assises de Paris.
Europe Soir, le 18-20. Julien Bugier.
La suite du journal 19h10. Il était l'un des plus grands scientifiques d'Iran, une éminence grise dans le domaine du nucléaire.
Et il a été assassiné vendredi dernier de manière spectaculaire. On en parle ce soir avec notre spécialiste des questions internationales. C'est l'œil de Didier François. Bonsoir Didier.
Bonsoir.
Le régime de Téhéran accuse aujourd'hui Israël et brandit la menace de représailles.
Oui, parce que le coup est extrêmement rude pour la République islamique d'Iran qui vient de perdre le cerveau de son programme nucléaire, mais surtout l'homme qui en avait conçu sa part la plus secrète. Son volet militaire, le projet clandestin Ahmad, dont l'objectif était de doter le régime des ayatollahs d'un petit arsenal nucléaire. Mohsen Fakhrizadeh n'était d'ailleurs pas un simple physicien. Il avait également rang de général dans les gardiens de la révolution, qui est un peu la milice idéologique du pouvoir iranien. Et c'est sous sa direction directe qu'avait été pensée et construite dans la plus grande discrétion l'usine d'enrichissement de Natanz. Vous savez, ce vaste complexe souterrain où des milliers de centrifugeuses sont capables de transformer de l'uranium en une matière fissile de qualité suffisante pour servir à la fabrication d'une tête nucléaire. Alors c'est un programme tout à fait clandestin qui avait été mis en place en 1999 et il a été découvert en 2002. La pression de la communauté internationale a donc fait, avec des sanctions et des opérations de sabotage, des attaques cyber, vous rappelez, avec des virus informatiques comme Stuxnet, déjà à l'époque, des assassinats ciblés de plusieurs ingénieurs de haut niveau, qui étaient tous des collaborateurs de Mohsen Fakhrizadeh. Tout cela avait forcé l'Iran, finalement, signer en 2015 un accord de renoncement à la part militaire de son programme nucléaire sous le contrôle de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
Mais qu'est-ce qui a donc, Didier, relancé cette guerre secrète ?
Alors c'est évidemment lié au départ de Donald Trump, dont vous savez que l'une des premières mesures lorsqu'il a été élu fut de dénoncer l'accord sur le nucléaire iranien et de réimposer des sanctions économiques. L'Iran, en représailles, a repris l'enrichissement d'uranium et dispose désormais de 2500 kilos de matière fissile, ce qui est 12 fois la limite fixée dans l'accord. Donc mécaniquement, ça diminue le délai qu'il faudrait à Téhéran pour fabriquer une bombe, ce qui inquiète terriblement Israël, on le comprend. Et à l'évidence, il a été décidé de liquider celui qui aurait été chargé de produire ces armes avant l'entrée de Joe Biden à la Maison-Blanche. C'était une fenêtre d'opportunité, d'autant que le futur président américain a toujours fait savoir que lui, il voulait revitaliser l'accord sur le nucléaire iranien.
Merci mon cher Didier. L'œil de Didier François, c'est tous les soirs dans le journal de 19h.
Des nouvelles du Vendée Globe et surtout du skipper Kevin Escoffier. On en parlait à 18h. Il a déclenché sa balise de détresse en raison d'une importante voie d'eau. Jean Le Cam, qui est son concurrent le plus proche, se déroute actuellement pour lui porter assistance. Il s'agit du premier sauvetage depuis le départ de la course.
Une femme arbitre en Ligue des Champions, c'est une grande première, Isabelle.
Stéphanie Frappard, qui est déjà la première femme à être devenue arbitre de Ligue 1, notamment, va devenir la première à diriger une rencontre de la Coupe aux grandes oreilles. Ce sera dans deux jours lors du match entre la Juventus et le Dynamo Kiev.
Et puis toujours en sport, grosse inquiétude autour de la Coupe de France de foot 2020-2021.
Oui, après les annonces d'Emmanuel Macron sur la reprise du sport amateur d'ici le 20 janvier, les fans de foot sont très inquiets. La doyenne des compétitions pourrait en effet être annulée pour la première fois de son histoire, Julien Froment.
Effectivement, les mots du président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, ne sont pas vraiment rassurants. C'est quasiment cuit, a-t-il déclaré chez nos confrères de France 3 Bretagne. Vous l'avez rappelé, jusqu'au 20 janvier, pas d'entraînement, pas de match pour les clubs amateurs. Donc impossible dans ces conditions de disputer la Coupe de France alors qu'il y a encore 3 tours à jouer avant la rentrée des clubs professionnels. Plus le temps passe, plus le calendrier se resserre. Tout doit rentrer d'ici le 11 juin, date du début de l'Euro. Un casse-tête pour la Fédération, un crève-cœur pour les clubs amateurs. Michael Bertancetti est le président de l'INA Montlhéry. Il a défié l'an passé le Paris Saint-Germain en 32e de finale. Un match qui a tout changé pour le club de l'Essonne.
Ça représente 50% du budget annuel du club, donc c'est énorme. Au niveau de la notoriété, la mairie nous a suivis. On avait besoin d'un terrain parce qu'on n'avait plus d'installations aux normes. La mairie, cet été, nous a fait un terrain et ce qui nous sauve aussi la mise. Toutes ces choses-là sont arrivées par rapport à la Coupe de France.
La Coupe de France, doyenne des compétitions qui a tout traversé, même la Seconde Guerre mondiale, est en grand danger. La fédération envisage toutes les hypothèses, ne faire jouer que les clubs professionnels ou l'annuler purement et simplement. Elle espère surtout un assouplissement des mesures par le président Macron le 15 décembre prochain.
Julien Froment du service des sports d'Europe 1.
Merci Isabelle. À demain.
À demain.
La météo avec Anissa qui nous a retrouvés. Vigilance dans le nord-est, soyez prudents demain.
Ça concerne 4 départements et dès ce soir, Julien, notamment pour la Meurthe-et-Moselle, la Meuse, la Moselle et les Ardennes. Vigilance orange, neige verglas. Attention, ce soir et déjà dès maintenant, et puis cette nuit, les pluies sont verglaçantes. La neige tombe en pleine. Alors la neige, elle ne va pas vraiment tenir. Elle va tenir à partir de 500 mètres d'altitude. Demain, nous avons une perturbation qui traverse le pays. Des Pyrénées à l'Alsace, le temps est gris et pluvieux. À l'arrière de la perturbation sur le nord-ouest, sur la région parisienne et la façade atlantique, demain après-midi dans toutes ces régions, le soleil revient. Dans le sud, il fait beau, mais nous avons toujours le Mistral et la Tramontagne qui soufflent. Les températures, elles sont toujours négatives en Auvergne et dans le nord-est, avec 0 à moins 4 degrés demain matin, 2 à 9 partout ailleurs. Et puis dans l'après-midi, nous aurons 4 à 16 degrés, 4 à Strasbourg, 10 à Paris et 16 pour Ajaccio. Attention, cet événement n'est absolument pas exceptionnel. Hein. De la neige début décembre, oui, c'est presque météorologiquement normal.
Bien, et on est content de l'annoncer, ça fait du bien, vrai. Un petit peu. Un petit manteau blanc sur les cimes, exactement, des montagnes. Merci Anissa,
bonne à demain. Soirée.
19h16, dans quelques secondes, le débat du Club des idées. Comment réenchanter le bonheur au travail en ces temps de crise? Les cadres ont le blues, oui, mais nous verrons que ça n'est pas irréversible, bien au contraire. D'abord, le coup de griffe, comme chaque lundi, de Philippe Besson.
Europe Soir, Julien Bugier.
Je vous demande de vous arrêter.
Je suis très en colère.
Écoutez, vous êtes rapide. C'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité.
Bonsoir Philippe.
Bonsoir Julien.
Alors depuis quelques jours, certaines voix affirment que la France serait devenue un régime autoritaire en raison des violences policières, en raison de la loi relative à la sécurité globale, en raison aussi des contraintes lourdes imposées par la crise sanitaire. Mais vous n'êtes pas forcément d'accord avec cette représentation.
Je dis qu'il faut traiter le sujet évidemment, mais éviter les raccourcis. Alors commençons par les violences policières. Nous avons tous été horrifiés par le tabassage de Michel Zecler. De tels faits sont évidemment insoutenables et inacceptables. Leurs auteurs doivent être sanctionnés par la justice et révoqués de la police. Mais une fois qu'on a dit ça, on doit calmement et en toute lucidité se poser une autre question. Ces violences sont-elles systémiques? Elles semblent plutôt ultra-minoritaire au regard des 3 millions d'opérations annuelles des forces de l'ordre. Rappelons aussi que les policiers sont par nature les détenteurs de la force légitime. Rappelons enfin, vous le disiez tout à l'heure, qu'après les attentats de 2015, nous les applaudissions. Donc quelques brebis galeuses ne doivent pas jeter l'opprobre sur toute une profession qui, par ailleurs, accomplit quand même un boulot souvent ingrat dans des conditions difficiles. Attelons-nous plutôt à améliorer la formation des agents et à réformer l'IGPN.
Alors au sujet, Philippe, de la loi dite de sécurité globale qui s'ajoute à tant d'autres lois sécuritaires, vous trouvez que les critiques sont malvenues ?
Non, j'entends les avocats ou les syndicats de journalistes qui s'émeuvent de voir nos libertés restreintes. Et il est tout à fait exact que sur les 5 dernières années, nous en avons connu 3 sur le régime de l'état d'urgence. Et nous préférerions tous qu'il en soit autrement. Mais la vérité, c'est que la résurgence du terrorisme d'abord, la violence nourrie par les réseaux sociaux ensuite, nous ont conduit en tant que peuple à renier sur nos libertés et à privilégier la défense de notre sécurité. Mais ce déplacement du curseur s'est fait avec l'assentiment de l'opinion et même à sa demande.
Mais l'opinion publique n'a pas toujours raison, absolument, vous le savez mon cher Philippe. Et concernant la crise sanitaire, entre le confinement et l'isolement envisagé des malades, on n'en fait pas trop quand même en matière de restrictions?
D'abord, il s'agit de contraintes temporaires qui sont dictées par les circonstances et supportables si on est honnête. Rester chez soi, ne pas aller au bistrot, ne pas surconsommer pendant quelques semaines, est-ce que c'est si grave?
Oui, c'est très grave.
C'est si grave, oui, d'accord, très bien. Et on voit le mec qui est allé faire les magasins samedi et dimanche. Et puis faire attention les uns aux autres et ne pas s'arc-bouter sur nos réflexes égoïstes. Est-ce que c'est si terrible? Bon, il faut savoir ce qu'on veut par ailleurs. On ne peut pas dire qu'il faut lutter efficacement contre le virus et n'accepter aucun effort. On ne peut pas dire qu'on a une deuxième vague meurtrière parce qu'on a été trop laxiste au moment du déconfinement et refuser toute discipline. Et puis nos contradictions, elles ne s'arrêtent pas là. On refuse de télécharger tous anti-Covid au motif que le gouvernement, encore lui, en profiterait pour s'introduire dans nos vies. Quand dans le même temps, on n'hésite pas une seconde à livrer toutes nos données personnelles à Facebook, Google ou Amazon.
Très juste. Donc ceux qui disent que l'état de droit est attaqué et qu'Emmanuel Macron agit comme un monarque se trompent selon vous?
Je note en tout cas que le Parlement est consulté et qu'il vote les lois qu'on lui soumet. Or, il représente le peuple français. J'observe qu'il existe de nombreuses possibilités de recours devant les tribunaux, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l'homme. Je rappelle que les Français ont massivement voté en faveur de cette 5e République voulue par le général de Gaulle, vous l'avez, celui-là même dont nous célébrons avec émotion les 50 ans de la disparition. Et dans la 5e République, tout remonte au chef de l'État. Alors, est-ce qu'on veut changer de constitution? Puis, de toute façon, il reste le suffrage universel. Dans 18 mois, les électeurs, s'ils le souhaitent, pourront envoyer ce pouvoir s'ils le jugent liberticide. Mais enfin, en matière de liberté, je suggère surtout que nous nous comparions, sans parler de la Chine ou de la Russie, Préférerions-nous vivre en Amérique, où la police tue plus de 1000 personnes chaque année, en Pologne, où l'avortement est presque impossible, en Turquie, où la presse est muselée, en Espagne, où on encourt jusqu'à 600 000 euros en cas de récidive à une violation d'isolement? Personnellement, je choisis la France.
Vous avez voté, vous, pour la 5e Constitution?
Moi, non. Ah, oui. Je
n'étais pas né. Non, parce que vous croyez un petit peu plus jeune que cela. Merci, Philippe. Merci pour cette carte blanche du lundi.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir à 19h22, dans le débat du Club des Idées, quel est le secret du bonheur au travail? On en parle ce soir jusqu'à 20h, après la publication du dernier grand baromètre de l'Union des ingénieurs cadres et techniciens de la CGT, réalisé par Via Voice. On y apprend qu'avec la crise sanitaire et les nouveaux usages comme le télétravail, les cadres se sentent parfois dévalorisés et en manque de reconnaissance. Alors la faute au télétravail, justement? De quoi ce coup de blues est-il le révélateur? Et quel est donc le secret du bonheur au travail? On en parle ce soir avec nos invités. Jean-Claude Delgen, bonsoir. Vous êtes président de Technologia, c'est une entreprise spécialisée notamment dans l'évaluation et la prévention des risques liés à l'activité professionnelle. On en parle également avec Sophie Binet, bonsoir. Vous êtes co-secrétaire générale du syndicat CGT de l'Union Générale des Ingénieurs Cadres et Techniciens. C'est vous qui réalisez donc cette grande enquête sur l'état d'esprit des cadres. Et on en parle également avec Laurence Breton-Cueni, qui est vice-présidente de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines. Bonsoir et bienvenue à vous. Alors d'abord, pourquoi cette dégradation du moral des cadres est pour vous une alerte importante qu'il faut prendre au sérieux, Sophie Binet?
Tout simplement parce qu'il n'y aura pas de sortie de crise sans les cadres. Et là, ce qui est très inquiétant dans ce baromètre, c'est qu'on a d'abord des cadres qui sont très critiques sur les réformes du gouvernement et du patronat, qui sont 54% à considérer qu'il faut abandonner définitivement la réforme des retraites, un message que l'exécutif ferait bien d'entendre, qui sont 64% à considérer que le plan de relance ne sera pas efficace, et qui sont surtout 84% à estimer qu'il faudrait, pour qu'il soit efficace, que ce plan de relance soit conditionné justement à des critères en matière d'emploi et d'environnement.
Ça, c'est pour le contexte général, mais après, il y a leur état d'esprit personnel, c'est là-dessus que je voudrais qu'on s'arrête quelques instants. Des cadres qui disent se sentir sous l'eau avec des méthodes de travail qui ont dû s'adapter. Évidemment, on pense au télétravail. 61% des personnes interrogées considèrent ainsi que leur charge de travail a fortement augmenté cette année avec, je passe pêle-mêle les explications, mais des horaires à rallonge, des difficultés à être en rapport avec leur hiérarchie, parfois à comprendre leur mission. C'est ça la problématique de l'état d'esprit des cadres en ce moment?
Tout à fait. Ce baromètre qu'on a réalisé avec CECAFI, on le fait chaque année depuis 10 ans, donc c'est intéressant de voir les évolutions. Et là, s'il y avait un mot à retenir, je pense que ce serait le mot de saturation. Il y a une forme de saturation des cadres qui sont confrontés à la crise sanitaire et de ce fait-là doivent réorganiser en permanence leurs équipes, les façons de travailler, sont confrontés à la crise économique, donc doivent maintenir l'activité économique malgré la crise sanitaire, et en plus sont confrontés au maintien des réorganisations, d'un certain nombre de réorganisations, notamment dans les grands groupes, avec lesquels ils ne sont pas d'accord et qu'ils sont sommés de mettre en place, alors que, de leur point de vue, c'est contraire au sens de leur travail et aux bonnes perspectives de l'entreprise.
Alors d'abord, peut-être sur le constat réaction, Laurence Breton-Cueni, est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous surprend, le résultat de cette grande étude?
Bien, bonsoir. Ce serait surprenant que les personnes ne soient pas inquiètes dans le climat que nous vivons aujourd'hui. Déjà, on ne sait pas, on est en fin d'année, donc chacun s'attelle, en tout cas pour ceux qui n'ont pas de plan de sauvegarde de l'emploi, on s'attelle à réaliser nos chiffres d'affaires de l'année. On fait tout en sorte, nous, les DRH, pour accompagner à la fois, effectivement, ce deuxième confinement un peu particulier, parce qu'on peut quand même avoir un télétravail sur certains postes. Et aussi, on le sent bien, le moral n'est pas forcément présent. Et c'est à nous d'accompagner. Et pour cela, effectivement, il faut être très à l'écoute. On a un certain nombre, les uns et les autres, de baromètres sociaux. Et puis, les managers de proximité n'ont jamais été aussi importants parce que le télétravail, au bout d'un moment, ça nuit au moral. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'études qui ont été faites sur le sujet. Donc, ça changera quand on pourra les revoir dans nos sites.
Jean-Claude Delgen, même question sur le constat général d'abord.
Oui, moi, je dirais qu'en fait, aujourd'hui, dans ce que nous voyons, nous, sur le terrain, c'est qu'il y a une double interrogation chez les cadres. La première interrogation, elle est liée à la situation économique, le désastre social qui vient au printemps prochain parce qu'on a remplacé du chiffre d'affaires par de l'endettement. Et lorsque l'on va arrêter les comptes, donc en février, mars, mai, juin, on va s'apercevoir que le roi est nu au milieu de la cour. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les fonds propres des entreprises vont totalement être détériorée. Alors, on peut allonger les délais de remboursement, mais malgré tout, les sociétés, les petites boîtes, les PMI, PME, ce qui fait le corps, je dirais, de l'industrie et des services en France, vont être extrêmement malmenés. Donc, il y a une très grande inquiétude, puisque les cadres se connaissent et se reconnaissent tout à fait dans ces chiffres-là, premièrement. Autre interrogation, celui de la fragilité de l'employeur. Est-ce que l'employeur va pouvoir me garantir cet emploi? Il suffit de voir simplement cette année, on a une chute des recrutements en 2020 qui est de 40%. On recrute à peu près 200 000 cadres dans l'année. On a une chute de 40% cette année. Est-ce que ça va continuer l'année prochaine? Et enfin, autre interrogation, le sens du travail. Beaucoup de cadres, dans la période de confinement, se sont interrogés. Est-ce que ce job est alimentaire ou est-ce qu'il répond vraiment à mes attentes profondes? Et je dirais pour finir qu'on a plus des cadres aujourd'hui qui sont plutôt impliqués que plutôt engagés. Il y a une différence entre l'implication et l'engagement. Je ne sais pas si j'ai le temps de vous l'expliquer.
Non, c'est une notion très intéressante. On va en parler dans quelques secondes, juste après la pause, 19h28. Et puis on s'intéressera, parce que moi j'ai envie de donner de l'espoir aussi à tous les gens qui nous écoutent. Et les cadres sont nombreux à nous écouter sur Europe 1. Le secret du bonheur au travail. Comment réenchanter le travail des cadres, hein, tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
Et ce soir, dans le débat du Club des Idées, on poursuit notre entretien. Comment retrouver le chemin du bonheur au travail? On en parle jusqu'à 20h après la publication d'un grand baromètre sur l'état d'esprit des cadres qui n'est pas franchement au beau fixe. On continue donc d'en parler avec nos invités. Je voudrais vous entendre, Laurence Breton-Cluny, sur le télétravail. C'est ce qui ressort, on en parlera dans un instant, Sophie Binet, puisque vous êtes la co-secrétaire générale de l'Union Générale des Ingénieurs Cadres et Techniciens, qui réalise donc cette grande enquête. C'est vrai que les cadres et le télétravail, ça ne fait pas le bonheur, contrairement à ce qu'on pensait. Le patron du MEDEF disait il y a quelques jours, Geoffroy Drouot de Bézieux, il y a une gueule de bois aujourd'hui du télétravail. Est-ce que ça participe, ça, le télétravail, quasiment à plein temps maintenant, quasiment 5 jours sur 5, à l'état d'esprit un peu morose des cadres?
Et tout à fait, pas seulement des cadres, et on le voit bien dans les différents articles et même dans les enquêtes que nous avons faites au niveau de la NDRH, que l'idéal se situe à peu près à 2 jours de télétravail par semaine, tout simplement pour ne pas avoir trop d'isolement. Et on se rend bien compte qu'on a un manque de convivialité, le fait de ne pas être ensemble, et tous les métiers dans la créativité s'en ressentent énormément.
Oui.
On manque de liens sociaux. Et c'est vrai que le tout télétravail, d'une part, le premier confinement, ce n'était pas un vrai télétravail, c'était en mode dégradé. Et même aujourd'hui, si les parents ont les enfants qui vont à l'école, on a toujours cette distance, les outils informatiques, toutes ces technologies. Eh bien, au bout d'un moment, on se lasse.
Donc le télétravail est plutôt mal vécu par les cadres?
Pas que par les cadres. Ils sont bien vécus. En fait, il faut arriver au juste milieu.
Au juste milieu.
Tout télétravail, c'est trop. Ça doit être adapté à certains types de populations. Mais il y a ce besoin de retrouver le lien social sur les sites.
Sophie Binet.
Pour résumer, l'état d'esprit, c'est le télétravail, oui, mais pas à n'importe quelle condition et aux nôtres. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a un vrai problème pour que les cadres, notamment, puissent déterminer les conditions du télétravail. Ils sont en plus souvent managers, et c'est encore plus difficile quand on a des équipes à manager, notamment en télétravail temps plein. Et les différentes études qu'on a réalisées démontrent que le télétravail amplifie les inégalités entre les femmes et les hommes, évidemment du fait de la garde des enfants, mais aussi du fait de la question des violences conjugales, si on prend ce biais-là. Et on regrette que cette question n'ait pas pu être traitée dans la négociation interprofessionnelle. Dans notre sondage, il y a 65% des cadres qui disent qu'ils considèrent que le télétravail n'est pas assez encadré, et 75% qui considèrent que le droit à la déconnexion n'est pas garanti. Et on voit l'alerte que ça fait peser sur les questions de santé, puisque les cadres sont aussi une très large majorité à nous dire travailler pendant leurs jours de repos et soir et week-end compris.
Alors ça, c'est vrai, Jean-Claude Adjane, on a du mal à débrancher quand on est en télétravail et du coup on travaille plus. Moi, j'avais entendu dire qu'on était plus productif en télétravail parce qu'on n'avait pas le souci des transports, le stress d'arriver en retard, la problématique de se trouver un déjeuner le midi quand il faut déjeuner sur le pouce ou d'aller au restaurant.
Oui, toutes les études montrent que la personne qui est en télétravail, tout au moins la première année, est plus productive que quand elle est en présentiel. Le problème, c'est que le télétravail, et ça n'a jamais été vraiment analysé, génère des effets sournois, des effets induits, et c'est pour ça qu'effectivement, il faut le caper à 2 jours par semaine maximum. Et quand vous le faites à deux jours par semaine, il faut y compris organiser...
C'est rare que syndicats et patronat soient d'accord, mais là, j'ai l'impression qu'il y a un consensus quand même.
Oui, parce qu'il y a des effets. Par exemple, avec le télétravail, vous perdez ce qu'on appelle en sérendipité. La sérendipité, c'est quand vous, par exemple, vous trouvez des choses sans les chercher. Prenons un exemple, Fleming, quand il a découvert la pénicilline, il ne l'a pas fait volontairement. Il a laissé traîner des expériences de laboratoire. Il est revenu, il a trouvé des champignons 3 jours après. Et à partir de là, il a découvert la pénicilline. Eh bien, dans le travail, c'est la même chose. Quand vous êtes avec les autres, quand vous êtes en contact, vous échangez des idées, vous êtes dans une création collective, même sans vous en rendre compte. Et là, avec le télétravail, vous perdez avec les protocoles, vous perdez ça. Vous perdez en intelligence collective. Alors ça, bien sûr, l'intelligence collective, la création de valeur ajoutée, c'est pas inscrit dans les bilans, mais c'est essentiel. Et donc, lorsque vous êtes trop longtemps en télétravail, vous allez à terme perdre en enrichissement, en formation, en acculturation. D'ailleurs, toutes les études montrent que ceux qui sont en télétravail partent les premiers de l'entreprise, sont les premiers remerciés et ont le moins d'augmentation.
Donc un peu de télétravail, c'est bien, mais pas trop. Attention,
2 jours maximum.
Danger. Laurence Breton-Cuny, qu'est-ce qui fait qu'on est bien dans une entreprise, qu'on se sent bien dans une entreprise? Pourquoi est-ce qu'il y a des entreprises où il fait bon travailler, les salariés sont allés à 90% satisfaits de leur boîte, et d'autres où ça se passe un peu moins bien?
Je crois que la première des choses, c'est de partager les valeurs dans l'organisation où nous sommes. Et ça, on en parlait tout à l'heure, le sens, avoir l'impression qu'on est utile et avoir une organisation qui sait accompagner. Quand on regarde l'accord du télétravail, on parle des aidants, on parle des femmes et des hommes et des situations particulières. Quand on sait qu'une entreprise sera là pour faire le maximum, alors bien entendu, en temps de crise, parfois ça devient compliqué, mais ces questions de santé, qualité de vie au travail deviennent une préoccupation. Et comme tout ce qui est responsabilité sociétale, on va les retrouver dans cette crise et dans la façon d'appliquer le télétravail.
Alors, je me suis plongé, moi, dans les récentes études sur les groupes où il fait bon travailler selon les salariés. On retrouve des groupes et des marques très connues. Mars Group, par exemple, Decathlon, Le Bon Coin, Ubisoft, l'éditeur de jeux vidéo, le lunetier Chris. Et puis, il y a aussi Dexia, c'est une société de conseil en ingénierie dont on a contacté la DRH. Elle s'appelle Emmanuelle Pailly. Je vous propose de l'écouter.
Lorsqu'Exia a été créée en 2007, le postulat, c'était que le bien-être génère de la performance. Ça s'exprime assez simplement, c'est-à-dire qu'on va partir de l'individu, de ses aspirations, et on va co-construire avec lui son projet professionnel. Là où d'autres entreprises plus classiques vont partir d'une feuille de poste, d'une fiche de poste et d'une stratégie et essayer de recruter les personnes qui vont décliner cette stratégie, chez nous, c'est l'inverse. La société a triplé de taille en 5 ans. Donc, on peut considérer que d'un point de vue croissance et d'un point de vue bien-être, cela fonctionne.
Voilà, c'est la DRH donc, de Extia au micro de Carole Ferry. C'est une entreprise de société en conseil ingénierie qui a tout de même 2000 salariés. Donc, ce que nous dit cette dame, c'est que l'individualisation et l'accompagnement de chaque salarié, c'est ça la clé pour être heureux au travail, Sophie Binet.
Nous, dans nos contacts avec les cadres et dans ce baromètre, ce qui ressort, c'est 3 choses. La première, c'est la question de l'articulation entre la vie privée et la vie professionnelle. Ça ressort très fort, notamment chez les femmes. Pourquoi ? Tout simplement parce que le temps de travail des cadres est beaucoup trop élevé en France. C'est 44h30 en moyenne. Oui. Quand on a une famille, c'est juste impossible. Et aujourd'hui, l'aspiration des cadres, femmes, mais aussi de plus en plus les hommes, et c'est une bonne chose, c'est de pouvoir avoir une carrière professionnelle tout en ayant des enfants. Donc la première chose, c'est de réduire le temps de travail des cadres, de sortir du présentéisme, de mettre en place un vrai droit à la déconnexion qui est plébiscité par les cadres. La deuxième chose, c'est la question de la reconnaissance. Et la reconnaissance, ça passe bien sûr par un management bienveillant, mais ça passe d'abord par la question du salaire. Mmh. Et là, ce qui ressort très fort dans notre baromètre de cette année, c'est la colère salariale que les cadres sont 62% à considérer que leur salaire est en décalage avec leur implication, qui, rappelons-le, ces derniers mois, a été extrêmement importante. Oui. Et puis, la troisième de leurs priorités, c'est la question du sens et du contenu de leur travail, alors que depuis 20 ans, avec la financiarisation de l'économie et des entreprises, de plus en plus, on assiste à ce qu'on appelle, nous, à la CGT des cadres, le Wall Street Management, un management par les chiffres, où ce qui dicte le contenu et l'organisation du travail, ça n'est pas le professionnalisme et l'éthique, mais des objectifs chiffrés, déconnectés du contenu du travail et de son sens, et dictés par les seules orientations et intérêts des actionnaires.
Ça, c'est vrai que c'est un élément, Jean-Claude Dalgen, qui revient beaucoup. C'est-à-dire que j'ai lu une autre étude qui est parue il y a quelques semaines. Pour 1 cadre sur 4, le fait d'avoir des objectifs clairs, de se sentir utile, sont des éléments importants qui vont susciter le bonheur au travail.
Oui, je crois que, en fait, si vous voulez, si vous prenez une organisation aujourd'hui de travail, vous prenez 10 personnes qui sont censées faire le même travail, vous leur demandez d'expliquer ce qu'elles font et vous apercevez que, alors qu'elles ont quasiment la même fiche de travail, la même fiche de poste, oui. Elles font toutes des choses un peu différentes. Il y a un flou dans les organisations qui est lié au fonctionnement matriciel. Auparavant, il y a 15-20 ans, vous aviez un dirigeant qui avait des subordonnés en dessous. Aujourd'hui, n'importe quel cadre répond à plusieurs... Il est sur différents projets, comme l'a expliqué très bien Sophie. On est dans une DPO, direction par objectif. Hein, c'est le modèle Stuart Spencer qui remonte à l'école de Chicago en 91, qui fait que chacun doit s'inscrire dans une logique et déterminée et doit rendre des comptes. Ce qui fait qu'on a un objectif central qui est désagrégé jusqu'en bas et il y a des reportings incessants. Chacun doit répondre à des reportings. Chacun donc est contrôlé dans son activité, dans sa rentabilité.
On est trop hiérarchisé dans l'entreprise française. On n'a pas assez d'autonomie.
On est dans une logique d'autonomie, mais d'autonomie intégrée. C'est-à-dire qu'on vous laisse le champ libre à condition que vous soyez, un peu à la mode anglo-saxonne, capable, je dirais, de produire des résultats. Mais ce que je voulais rajouter, c'est que j'aime pas trop le terme de bonheur au travail. Moi, je préfère parler de secret des collectifs heureux. On a fait une étude, nous, il y a quelques années là-dessus, sur le secret des collectifs heureux. Pourquoi, en fin de compte, il y a des entreprises, alors, au-delà des slogans, des labels creux, qui je ne donnerai pas de nom, qui font dire, soi-disant, à ce que des boîtes sont heureuses, et en fait, très souvent, on s'aperçoit que c'est, de l'enfumage. Mais ce qui marche dans les entreprises, c'est la liberté d'expression, le fait de pouvoir rire, le fait de pouvoir tout simplement avoir cette convivialité de terrain, le fait d'avoir le droit à l'erreur. Bien sûr, ce qu'a dit aussi Sophie, la rémunération, le fait de pouvoir être promu. Vous voyez, donc tous ces éléments-là sont extrêmement importants pour permettre aux gens d'avoir un rythme de travail synchronisé avec le rythme d'ensemble et de ne pas non plus avoir des exigences professionnelles trop importantes.
Sophie Binet.
En fait, de plus en plus, la difficulté, c'est qu'on a un travail qui est standardisé, qui est vidé de son sens et qui est enfermé dans des choses très procédurales qui n'ont aucun sens en termes de contenu. Par exemple, en termes de santé-sécurité, on va accumuler les pages et les pages de procédures, c'est ce qui s'est passé pendant le Covid, tout simplement pour sécuriser la responsabilité des directions dans une perspective assurantielle. S'il y a un problème comme ça, on peut prouver qu'on avait dit qu'il fallait faire. Et on ne va laisser aucune marge de manœuvre sur la façon de travailler intelligemment pour notamment l'encadrement. Et donc, on a un travail qui perd de son sens avec toutes ces procédures qui après, s'empilent et qui sont des procédures de papier glacé.
Ça dépend évidemment des entreprises et des postes.
Qui conduisent à nier le professionnalisme, en fait. Oui. C'est ça. Aujourd'hui, de plus en plus de cadres, leur seule demande, c'est « laissez-moi bien travailler
oui. ». Vous êtes d'accord, Laurence Breton-Cueny? Vous êtes vice-présidente de l'Association nationale des directeurs des ressources humaines.
Alors, je dirais qu'on ne peut pas faire de généralité. Tout dépend de l'organisation où on peut se trouver. On ne va pas avoir du tout les mêmes schémas dans les grandes entreprises, les ETI et les PME. Ouais.
Mais pour reprendre un concept fumeux, disait monsieur, le bonheur au travail, vous y croyez, vous?
C'est pas le bonheur. Hein. Le bonheur, c'est un concept particulier.
Mais y a
c'est la
une...
satisfaction au travail.
Satisfaction. Je dis ça
la satisfaction au travail.
Il y a quand même une tendance qui nous a été importée sans doute des États-Unis ou des Anglo-Saxons avec un nouveau poste qui s'est développé dans les entreprises.
Manager.
Le chef happiness officer, pour l'anglicisme, qui sont chargés, nous dit-on, de développer une ambiance conviviale et de renforcer l'engagement des salariés dans l'entreprise. Mais il se trouve, alors je ne sais pas si les sondages sont tronqués, il se trouve que dans les entreprises où il y a ce type de poste, proportionnellement, les salariés affichent une satisfaction plus importante que dans d'autres.
Ça dépend quel baromètre vous prenez.
Oui, et puis tout dépend. Pour être satisfait dans une entreprise, il faut déjà qu'on ait bien les bases, c'est-à-dire qu'on ait quelque chose de structuré, qu'en matière de rémunération, qu'en matière de relations sociales, on soit bien. Après, qu'on mette en place des perspectives d'évolution, parce que vous parliez de la rémunération. En réalité, quand on regarde bien, il y a à la fois l'environnement de travail qui est important et puis les perspectives d'évolution dans l'entreprise. La rémunération, elle vient en troisième en réalité. Parce que quand vous êtes bien dans un collectif de travail, vous épanouissez et vous restez. Donc il y a différentes choses. Et ce n'est pas forcément les entreprises qui vont payer le mieux, qui auront le plus de fidélité. C'est aussi savoir emporter. On parle beaucoup des managers de proximité, où ils ont un rôle important. C'est parfois difficile pour eux parce qu'ils ont des injonctions paradoxales, remplir leur tableau, leurs chiffres et prendre soin des autres. Et c'est vrai que ce qu'il faut bien voir pendant cette période de la Covid, on a mis en place des formations sur manager à distance, qui était un point important. Donc on investit, nous les DRH, parce qu'on n'a jamais eu l'humain qui est plus au cœur des entreprises qu'aujourd'hui.
Alors il y a des entreprises qui ont quand même révolutionné le rapport au travail et l'autonomie des salariés, ce sont les entreprises de la tech. Notamment en France. Et il y en a une qui se situe toujours dans le haut du classement des entreprises où il fait bon travailler. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est Le Bon Coin, fondé en 2006, passé de 2 salariés à 1400 salariés. Deuxième donc du classement de The Great Place to Work, le premier site de vente entre particuliers en France et la deuxième entreprise dans laquelle on aime bien travailler. Vous me direz si tout ça est judicieux. Et on a contacté son directeur général Antoine Joutot. Voilà comment il explique le fait que les salariés y seraient plutôt contents.
C'est quelque chose qui se fait dès leur recrutement. C'est comme un mariage, on essaie de savoir si l'un et l'autre, on est compatibles. Les valeurs servent de ciment et c'est ces valeurs-là qui permettent de réaliser notre plan stratégique, notre travail quotidien. Ce sont elles qui animent aussi notre raison d'être, qui est de donner à chacun le pouvoir de vivre mieux. Vous voyez, ces valeurs-là, elles permettent aux collaborateurs de se lever le matin, d'amener une partie d'eux dans leur travail et c'est ça aujourd'hui qui fait qu'ils sont satisfaits de leur métier.
Bon, et puis il y a des espaces, moi j'y suis allé au Bon Coin, il y a des espaces de travail qui sont plutôt sympas, qui sont avec une circulation intéressante, avec des espaces de repos, et on n'est pas fliqué à l'entrée, nous disait ce monsieur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la pointeuse pour vérifier les horaires, on a une autonomie en apparence plus importante. Est-ce que tout ça, c'est du vent, Jean-Claude Dalgène, ou alors c'est une réalité qui participe quand même à se sentir épanoui dans son travail ?
Non, il n'y a pas de...
Il ne s'agit pas juste de mettre un baby-foot et, et une table de billard, mais vous voyez ?
Je suis, moi, très sceptique sur un certain nombre de labels, dont vous en avez cité un, je ne le répéterai pas, qui, en fait, participent plus de donner à la DRH une marque qu'elle peut faire valoir sans pour autant recouper de vraies réalités. Oui. Et parce que nous, on intervient très souvent dans ces situations-là où il y a des épuisements, de la dépression, du burn-out, etc. Voilà. Bon. Ceci dit, dans certaines entreprises comme celles que vous venez de citer, très certainement, il y a une culture de l'engagement avec un public qui est plutôt jeune. Il faudrait voir la moyenne d'âge. Et ça correspond assez facilement à des phénomènes générationnels, voyez. Et donc ça, il faut en tenir compte, voyez. Donc, mais c'est pas forcément valable pour toutes les entreprises. Et on oublie une chose de dire, c'est qu'on l'a pas dit tout à l'heure, mais en fait, 67% des salariés sont en travail atypique, parce qu'on imagine le travail commençant le lundi matin à 8h jusqu'au vendredi à 17h. Mais ça représente un tiers des salariés. 67% des salariés et donc des cadres.
En fait, la norme, c'est d'être en horaire décalé ou
c'est
de faire des...
travail de nuit, travail décalé, travail le week-end, etc.
2 salariés sur 3 sont dans cette situation-là.
67% des salariés sont au travail atypique. Vous voyez, on oublie de dire, et on oublie de dire aussi que 25%, mais peut-être que Sophie pourra préciser, mais 25% des salariés aujourd'hui sont avec un travail très pénible. Travail de nuit, j'ai lu par exemple dernièrement Point à la ligne de
mais là, on
Pontus.
On était plutôt sur les cadres ce soir.
Mais oui, mais dans ces entreprises-là, quand vous êtes dans une entreprise, que vous voyez des gens qui sont à la chaîne, quand vous êtes dans l'encadrement, etc., c'est malgré tout des métiers qui sont très difficiles, vous voyez.
Oui, Laurence Prétoncuni, sur pas le bonheur au travail, mais le sentiment d'appartenance à une entreprise. Qu'est-ce qu'on peut dire ce soir aux cadres qui nous écoutent, qui voilà, sont peut-être dans une mauvaise passe, pour leur redonner le moral ?
Alors, déjà, ce qu'on peut leur dire, c'est que dans les organisations, en tout cas nous, en tant que DRH, on fait tout pour accompagner nos directions générales pour tenir le cap, pour préserver les emplois et pour se préparer à la reprise. Mmh. Hein, c'est-à-dire, il faut se dire, c'est une mauvaise passe. On en a encore jusqu'en début 2021.
Donc, on tient le coup.
Oui, il faut être ensemble. Là, ça n'a jamais été aussi fort. Ensemble, on essaye de communiquer. Parfois, ce n'est pas toujours évident. Il y a des bonnes et des mauvaises nouvelles. Mais il faut tenir. Et je sais que c'est dur aujourd'hui parce qu'on parlait des recrutements. C'est vrai que la plupart d'entre nous, à part l'high-tech, etc., mais on gèle nos recrutements tout simplement parce qu'on veut préserver le corps social. Donc, c'est difficile. On sait que chacun s'investit. Mais quand on partage des buts communs, on va y arriver. Il faut tenir encore quelques mois. Et en fait, on pourra faire effectivement un état des lieux en début d'année prochaine. On espère que cela ira, en tout cas dans la majeure partie d'entre nous. Nous, on a un job qui est difficile aujourd'hui. Hein. C'est rassurer et accompagner. Ouais. Bon, on sait très bien que certains vivent des situations difficiles chez eux. Hein. Le télétravail, au bout d'un moment, c'est compliqué. Mais il faut qu'on tienne et qu'on se dise qu'on est solidaires. On est tous ensemble, je veux dire, direction, salariés, qu'on soit collaborateur ou manager. Il faut qu'on garde un cap et on se dit ensemble, on va essayer d'y arriver.
Moi, il y a quatre éléments que... Merci pour ce message optimiste. Il y a quatre éléments que je retiens quand même ce soir. La valorisation du salarié, l'organisation du travail peut-être plus agile, le management plus inclusif, on en a parlé, et puis un environnement de travail, c'est peut-être secondaire, mais aussi sympathique. Sophie Binet.
Oui, moi je crois qu'il y a une chose qui est terrible aujourd'hui, c'est le double discours. C'est-à-dire quand on a effectivement des happy managers, des brochures de papier glacé qui affichent un engagement sociétal et environnemental d'une entreprise, et quand dans le quotidien du travail, c'est tout l'inverse qui est fait avec un double discours permanent. Et ça, j'alerte vraiment parce que c'est une pratique qui se répand et il n'y a rien de pire que ça. Et quand on regarde toutes les entreprises dans lesquelles il y a eu des suicides, du mal-être, etc., c'était ça à échelle industrielle. Donc vraiment, attention. Ce qui est nécessaire, c'est d'avoir un management qui repose sur la confiance, à l'inverse du reporting permanent qui est mis en place aujourd'hui. Et puis la deuxième chose, sur la question du sens au travail, nous, ce qu'on observe, c'est que c'est très intéressant l'aspiration, notamment chez les jeunes, d'un point de vue environnemental. Où aujourd'hui, un jeune, par exemple, un jeune ingénieur, quand il cherche du boulot, il va demander à l'entreprise qu'il recrute, qu'est-ce qu'elle fait en matière environnementale, quelle est la finalité de cette entreprise. Et je crois que c'est une perspective très intéressante pour transformer notre société et donc qu'on gagnerait à donner ce qu'on demande à la CGT, c'est-à-dire un droit d'alerte, de refus et d'alternative adossé à la responsabilité professionnelle pour permettre de proposer et de faire autrement.
Jean-Claude Elgen.
Oui, je pense que pour passer le cap de cette crise, il faut réinventer un nouveau pacte social. Premièrement, par exemple, il n'est pas normal qu'on demande tous les sacrifices aux salariés et aux cadres. Il faut que les actionnaires, que le top management répartissent au mieux les efforts à faire, les sacrifices à faire. Et qu'on ne fasse pas tout supporter.
Oui. Mais dans de ce point de vue-là, la crise a été révélatrice. Il y a quand même une prise de
conscience. Oui, mais rien ne change.
Rien
ne change. Et ce point est très important. J'insiste là-dessus parce qu'en attendant, c'est les cadres qui payent. On essaye de monter les ouvriers contre les cadres pour mieux exonérer le top management.
Après, je pense aussi que la question d'environnement est importante. Et je pense que ce qu'il faut dans les entreprises aujourd'hui pour vraiment faire avancer, c'est qu'on mette en débat les situations de travail dans un dialogue social riche, mais qui remonte du terrain pour voir tous les problèmes et les mettre en discussion dans les instances représentatives du personnel, dans les services de management, auprès de la DRH, qu'on mette en débat les situations de travail. Si on veut aller vers du bonheur au travail, comme vous dites, il faut aller vers la réouverture du débat. Il faut qu'on débatte sur les conditions de travail.
Et qu'on accepte le débat contradictoire.
Moi, je suis un petit chanceux, en tout cas, parce que je suis heureux au travail. Voilà.
Vous avez un métier vocationnel.
Un luxe.
Le journalisme est un métier vocationnel.
Merci, en tout cas, à tous les trois pour cet échange sur les raisons d'espérer aussi d'un certain bonheur au travail. 19h52, on se retrouve dans un instant en musique, dans quelques secondes, avec Jackson Thriller. C'était il y a 37 ans. Les archives d'Europe 1 suivra tout de suite.
Europe Soir, le 18-20, Julien Bugier.
19h53, le Club des Idées suite. On plonge maintenant, comme chaque soir, dans les archives pour éclairer l'actu. 3 minutes pour comprendre. Ça s'appelle le jour où.
De faire une grande cantine, peut-être cet hiver, gratos. Voilà.
Bonsoir, Angèle Châtelier.
Bonsoir, Julien.
Alors, avec vous, ce soir, on va parler musique. Et quelle musique ? Michael Jackson, on célèbre les 38 ans d'un album mythique.
Thriller de Michael Jackson, album le plus vendu de tous les temps, avec dedans non pas un, mais trois tubes. Thriller, mais aussi Beat It et Billie Jean.
C'est bon ça, Coco.
Ça fait du bien. Michael Jackson a 24 ans lorsque l'album sort en 1982, mais déjà des années de carrière avec les Jackson 5. Mais si Thriller est l'album le plus vendu de tous les temps, environ 60 millions d'exemplaires, ce que l'histoire retient, c'est aussi le clip de la chanson Thriller, sorti un an plus tard. À l'époque, il devient le clip le plus cher à réaliser, $900 000.
Le clip est même diffusé en première mondiale sur la chaîne MTV. À l'époque.
Un clip de 14 minutes devenu un clip de légende, fait de zombies, de cette chorégraphie, les bras en l'air.
Faut pas le voir trop jeune, sinon ça fait,
ça fait un peu peur.
Ça fait des cauchemars.
Ça fait un peu peur. 14 minutes, c'est une longueur inédite à l'époque, au point que le clip est édité sur cassette vidéo et se vend à presque 10 millions d'exemplaires, ce qui participe à l'avènement de la VHS grâce à ce rire démoniaque à la fin du clip aussi.
What's the problem? Come on, I'll take you home.
Oui, Michael Jackson, évidemment, qui influence depuis de nombreux artistes.
Oui, des artistes qui samplent ces chansons, qui les échantillonnent pour en créer de nouvelles, comme Kanye West, qui utilise un passage de la chanson Pretty Young Thing, la réarrange et l'intègre à sa chanson appelée Good Life. Alors, c'est un peu subtil.
Oui, on reconnaît bien quand même.
On reconnaît quand même. Il y a aussi eu le géant Miles Davis qui réinterprète Human Nature aussi. Et puis la pop star Rihanna qui utilise un passage de la chanson Wannabe Starting Something dans l'un de ses tubes.
Ah ouais, j'avais jamais fait attention. Pas mal, pas mal.
De quoi danser ce soir ?
Michael Jackson qui meurt le 25 juin 2009. Merci Angèle pour ces archives musicales, ça fait du bien, ça donne la paix. Merci à vous. Thriller. Est-ce que tu dis mieux, Émilie ?
J'adore.
Salut Émilie, comment
Salut.
Ça va ?
Cet album,
bah ouais, une
c'est quelque chose quand même.
Est-ce que le week-end a été bon et quel est ton programme ?
Alors ce soir, double affiche. On a une découverte, une jeune femme qui s'appelle Jeanne Gabrielle et qui a sorti vendredi son premier EP. Elle est corse, elle écrit, elle compose, elle est formidable. Et puis, nous avons invité, et on est tellement contents de son comeback, La Rousseau qui, elle, samedi soir, a gagné le concours Mask Singer sur TF1. C'est pas ambiancé sur
mais
ce titre.
Grave. Et pardon du mauvais jeu de mots, mais pas manchot La Rousseau.
Hey,
pas mal, hein.
J'aime beaucoup. Alors moi, c'est complètement mon humour, Julien.
Mais faut peut-être expliquer. C'est pas que je me moque, c'est qu'elle était, déguisée
en manchot.
En manchot.
Elle était dans le costume du manchot. Il fallait deviner qui elle était. Et elle a gagné donc cette compète de chant. Et justement, elle avait chanté une chanson de Michael Jackson, entre autres. Et du coup, elle vient nous raconter ça ce soir et puis nous parler aussi d'une nouvelle chanson qu'elle va sortir dès demain.
Bon, bah génial. On sera au rendez-vous. Merci, Émilie.
Merci beaucoup, Julien.
Dans un instant, le rappel de l'info avec Julien Pierce. Quant à nous, on se dit rendez-vous demain, même lieu, même heure, à partir de 18h. On écoute Le Monde Changer d'ici là, évidemment, sur Europe 1. Merci de votre fidélité. Belle soirée.